Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément et Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont nous vous remercions. Alors on va peut-être commencer, Virginie, par prendre le cheval au mot, et aujourd'hui ça sera le mot galop. Les chevaux galopent, on le sait. Et donc cette origine est en fait un peu mystérieuse. On la voit apparaître dans notre langue vers le milieu du XIIe siècle, et serait issue inconditionnel, selon certains spécialistes, du francisque wallop, qui signifie une course vers le champ de bataille d'un cavalier accompagné d'un fantassin qui court, ou d'un guerrier qui court à côté d'un cheval en se tenant à la crinière. Cette façon de combattre, déjà connue de César, s'était répandue en Europe et avait été en particulier adaptée par les auxiliaires germains intégrés dans l'armée romaine. Ils savaient très bien faire ça. Galop est à l'origine de la locution galop d'essai, petit galop pour tester la forme d'un cheval, et qui évolue vers un sens plus général que d'épreuve d'essai. En médecine, enfin, on parle de bruit de galop pour décrire un bruit lié à un rythme cardiaque anormal à 3 temps. C'est en Angleterre, au XVIIIe siècle, que sont organisés les premiers spectacles équestres réservés à un public d'aristocrates. Ces spectacles s'inspirent des manœuvres de la cavalerie militaire. Le but recherché par les organisateurs est de montrer l'excellence technique des différents escadrons qui y participent et convaincre de leur efficacité qu'ils auraient sur d'éventuels champs de bataille. Mais d'abord, un rapide retour en arrière pour décrire le contexte politique et économique de l'époque. La période que vit l'Europe à ce moment de son histoire est particulièrement dangereuse. La révolution industrielle née en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, qui transforme de façon radicale la technologie avec l'invention de la machine à vapeur, l'organisation du travail qui voit apparaître une classe ouvrière qui remplace l'artisanat traditionnel, la transformation de l'économie avec l'émergence d'un capitalisme puissant qui devient le maître du jeu, oppose les puissances européennes les unes aux autres, et plus particulièrement le Royaume de France au Royaume Angleterre. Le besoin croissant de matières premières et la recherche de nouveaux marchés met en concurrence les États européens entre eux. C'est dans ce contexte qui éclate en 1756, la guerre de 7 ans, que plusieurs historiens n'hésitent pas à nommer la toute première guerre mondiale, avant même celle de 14-18. En 2 ans, de 1759 à 1760, l'Empire britannique s'empare du Québec et de Montréal et raye de la carte politique une partie essentielle du premier empire colonial français. Les Britanniques n'ont pas seulement montré leurs muscles, ils s'en sont servis. D'abord utilisé dans le cadre de revues militaires, ce que l'on appellera par la suite le spectacle équestre, démocratique. Les lieux qu'il investit sont multiples, depuis le traditionnel manège d'équitation, la piste de cirque, mais également la scène de théâtre. Il n'hésite plus à s'insinuer dans toutes les formes d'art, depuis la danse, la musique et l'ensemble des arts plastiques. Il n'est plus considéré comme un simple faire-valoir, mais comme un acteur à part entière qui, comme ses collègues à deux jambes, donc le cheval, raconte une histoire. C'est ainsi qu'à la fin de nombreux spectacles, les chevaux viennent saluer le public. Une autre évolution marquante, le cheval de show ou de cinéma n'est plus un anonyme. Son véritable nom est cité ou apparaît au générique des films. Un cheval bien dans sa peau et souvent cabotin, pour ne pas dire farceur. C'est particulièrement vrai dans un spectacle où le cheval se produit en liberté, une discipline difficile dans la mesure où il n'est pas monté et n'a aucun contact physique avec son cavalier. Et il n'est pas rare d'en voir certains s'attarder sur scène et attendre la fin des applaudissements avant d'accepter de rejoindre les coulisses. Ça, j'y ai assisté plusieurs fois. Spectacle de cirque par excellence, une représentation équestre peut également être vue dans de prestigieuses académies. On pense bien sûr au Cadre Noir de Saumur, également à l'école espagnole de Vienne en Autriche, installée dans le manège d'hiver du palais impérial du Hofburg. L'école se veut le conservatoire des principes de dressage énoncés par le grand écuyer français du XVIIIe siècle, François Robichon de la Guérinière. Il s'agissait pour le grand cavalier d'opérer une profonde réforme de ce qu'il appelait l'art de monter à cheval et améliorer, voire contrer les vieilles méthodes souvent extrêmement violentes de ses prédécesseurs. Les chevaux non castrés arrivent à l'école du Hofburg, donc l'école espagnole de Vienne, à l'âge de 4 ans. Leur cursus comprend 3 cycles d'enseignement à l'image de ce que nous avons nous-mêmes suivi, l'école primaire, le collège et le lycée, on pourrait dire. Un cursus de 10 ans. Alors, on va commencer par l'école primaire. Chaque cheval est attribué à un dresseur unique. Dans ce premier cycle, le but recherché est de créer une relation de confiance et d'amitié. Le jeune cheval est habitué à être harnaché d'une bride simple, donc un seul mors et une paire de rênes. Puis on l'incite à se porter calmement en avant sans se tortiller. C'est le fameux triptyque connu de tous les cavaliers, calme, en avant, droit. Par cet exercice, le cheval prend confiance en lui et se muscle. Alors, de l'école primaire, il va au lycée et le moment est arrivé de lui permettre de s'assouplir en lui demandant de raccourcir ou d'augmenter ses foulées et de se déplacer latéralement. La bride simple est abandonnée, remplacée par la bride dite complète, munie de deux mors, le mors de filet que l'animal connaît déjà et le mors de bride, chacun relié à sa propre paire de rênes. Enfin, vient le temps de l'université, le cheval est devenu fort, souple et toujours aussi confiant. On lui demande de maîtriser parfaitement chacun de ses gestes, de transmettre avec la plus grande légèreté le poids de son corps, non plus sur ses épaules comme il le faisait et comme les chevaux le font à l'état naturel, mais sur ses hanches. Il est alors en état d'exécuter les airs les plus compliqués de la haute école, en particulier les sauts d'école qui sont quand même assez sportifs pour le cheval, donc sans se ruiner ni physiquement ni moralement. Mais accordons-nous maintenant une pause musicale avec un extrait de l'opéra Tezzone d'Antonio Vivaldi, interprété par la mezzo-soprano Raffaella Milanesi. Le messager du cheval vous invite maintenant à vous installer avec lui sur les gradins du grand manège de l'école nationale de Saumur. La présentation va commencer. Dans le plus grand silence, les écuyers font leur apparition dans la grande carrière, montés pour la plupart d'entre eux sur des chevaux de selle français provenant de différents élevages. Les cavaliers sont vêtus d'un uniforme noir, coiffés d'un képi surnommé le lampion et ornés pour les écuyers civils d'un petit soleil doré symbolisant le rayonnement de l'équitation de tradition française dans le monde et pour les écuyers militaires cette fois d'une grenade rouge enflammée qui est l'uniforme militaire. Alors l'une des caractéristiques principales de cette équitation est de créer une harmonie solide entre l'homme et le cheval. Mais je crois que tu as des choses à dire, Virginie, là-dessus.
Bien, pour une harmonie solide entre l'homme et le cheval, c'est ce qui caractérise donc cette équitation française, comme tu viens de le souligner, et qui a été donc inscrite en 2011 à l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Selon les termes de l'UNESCO, les principes et processus fondamentaux de l'éducation du cheval sont l'absence d'effets de force et de contraintes, ainsi que des demandes harmonieuses de l'homme, respectant le corps et l'humeur du cheval, la connaissance de l'animal, qu'elle soit physiologique, psychologique et anatomique, et de la nature humaine, émotions et corps, est complétée par un état d'esprit alliant compétence et respect du cheval. C'est cela l'équitation à la française, Michel.
C'est cela l'équitation à la française, voilà, c'est sûr. Et donc c'est cette caractéristique, effectivement, comme tu l'as bien dit, de légèreté que doit avoir le cheval. Alors tu sais que à Saumur, bon, on aime bien certaines formules qui parlent d'elles-mêmes. Par exemple, les aides. Alors, est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que c'est que les aides en équitation?
Alors, il y a les aides naturelles et artificielles. Les aides naturelles, ce sont les jambes, l'assiette, les mains, les bras. Les aides artificielles, c'est l'enraînement. C'est
les éperons, éventuellement.
Éventuellement les éperons.
Malheureusement. Oui. Enfin, ça dépend quand. Voilà. Je ne sais plus, il y a un proverbe qui dit l'éperon à un mauvais cavalier, c'est comme le rasoir dans les mains d'un singe. Donc, ça veut dire se méfier. Et alors, d'autres expressions, moi, que j'aime bien sur les aides. À Saumur, on dit que les aides ne doivent pas être discrètes, mais secrètes. Et une autre qui va un petit peu dans ce même esprit, c'est que le cheval doit réagir au souffle de la botte. C'est joli.
C'est très poétique.
C'est très poétique en plus.
Alors, ce qui est important, comme tu l'as souligné, c'est tout ce travail à Saumur a comme dénominateur commun d'entretenir une relation étroite entre le cheval et le cavalier dans un esprit mutuelle visant à obtenir la légèreté. C'est ces magnifiques spectacles dont tu nous as parlé de manière très évocatrice tout à l'heure, hein, où l'on voit arriver les chevaux d'une manière tout à fait calme et effectuer tous leurs airs d'école dans la légèreté. C'est une coopération, hein, il faut bien souligner ça, c'est une coopération entre l'homme et le cheval. Et puis ce qui caractérise aussi cette équitation de tradition française, c'est la transmission, d'où l'idée d'école, hein, du cadre noir. La transmission entre les anciens et les nouvelles générations. Et puis, il faut rappeler aussi que la région de Saumur rassemble éleveurs, artisans, vétérinaires, maréchaux ferrants. Donc, c'est tout cela que l'UNESCO a voulu mettre en valeur en inscrivant cette équitation à son patrimoine.
Absolument. Et alors, ce que j'ai compris aussi, c'est la force du couple que forment le cavalier et son cheval, même si à Saumur, le cavalier peut passer d'un cheval à l'autre. Il n'a pas un cheval attribué ou des chevaux attribués. Bon, c'est en grosso modo, il s'occupe chaque jour de 4 à 6 chevaux. Bon, ce qui est quand même, ça remplit bien la journée. Et dans la doctrine de Saumur, donc il reprend via la Guérinière l'équitation de tradition française, il doit prendre en compte sa propre nature, ses émotions, ses propres contraintes physiques, ses compétences, et pour arriver à atteindre un seul but qui est le respect absolu du cheval.
Oui, le cadre noir se définit comme une école qui ne se réduit pas aux techniques d'équitation, mais une école de conduite de soi, d'écoute des partenaires et de respect d'autrui. Donc ça englobe le cheval et également les hommes.
Ça englobe le cheval et les hommes, absolument. Et il y a aussi l'étude de l'anatomie du cheval, de comment il est fait. Bon, il monte essentiellement à 80% donc des chevaux de selle français, la race selle français. Et donc, c'est une étude globale. On n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas sur une espèce de choisir un morceau et pas l'autre. On prend tout. Et le cavalier, comme on vient de le voir, se met lui aussi dans le tout.
Tout à fait. Le cavalier est partie prenante, n'existe pas sans son cheval. Et de même, le cheval n'existe pas sans le cavalier à Saumur. Et ce qui est intéressant, c'est que à la suite de tout ce travail de l'UNESCO, et il s'est créé des rencontres d'équitation de tradition française à Saumur, dont la première a eu lieu en octobre 2014. Et ils ont invité plusieurs personnes dans des grands noms du monde équestre, dans des disciplines très différentes, puisqu'il y avait Michel Robert pour le saut d'obstacle, Lucien Grus, grand dresseur, artiste de cirque, Marguerite Otto-Crépin, qui était notre représentante en dressage pendant des années. Et ça souligne bien cette dimension très large qui dépasse le cadre de du manège de Saumur ou de toutes les académies auxquelles on aurait tendance à le laisser reposer peut-être d'une manière un petit peu poussiéreuse. Et c'est ça reste une équitation moderne.
C'est une équitation moderne et c'est extraordinaire ce changement de mentalité parce que les cavaliers de cirque, le Grus, bon les cavaliers qui doublaient les acteurs dans les films, etc. pendant longtemps ont été très très mal vus à Saumur. C'était un petit peu comme on dit dans le Midi, des cow-boys, enfin considérés comme cela.
Oui, les mentalités ont beaucoup évolué régulièrement. Sont invités à Saumur ou à des spectacles des cavaliers très différents. Je pense par exemple aux cavalières de l'école de Chantilly, du Musée vivant du cheval, qui font des représentations et qui ont travaillé avec Saumur.
Et qui ont travaillé avec Saumur, absolument. Donc on a véritablement une très très grande ouverture. Il faut dire que Saumur a changé de statut, ça c'est peut-être à noter. C'est-à-dire que l'École nationale d'équitation, qui a été créée autour du cadre noir de Saumur en 1972 pour la formation des cadres supérieurs de l'équitation, en fait a fusionné en 2010, donc c'est pas si vieux que cela, avec les haras nationaux pour former la fameuse IFCE qui est l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est-à-dire que ça a été quand même une transformation profonde pour Saumur, quoi. Donc il a créé donc effectivement ce qu'on appelle l'ENE, c'est-à-dire l'École nationale d'équitation.
Oui, pour revenir un petit peu à cette équitation française qui est au cœur donc de notre émission aujourd'hui, j'ai demandé à une illustratrice que connaissent beaucoup de monde, Marine Ossédic, qui est une grande spécialiste du cheval, ce qu'elle pensait de cette équitation de tradition puisqu'elle a illustré un livre du même nom qui est sorti en 2014 aux éditions Belin. Marine est également une cavalière de dressage et je lui ai demandé si de travailler sur ce sujet avait changé son approche de l'équitation. Première chose qu'elle m'a dite avec humour, c'est « tu montes mieux quand tu dessines des gens bien assis ». Et c'est vrai que c'est ça qui est merveilleux quand on regarde les cavaliers de Saumur, c'est cette merveilleuse tenue et assiette. Ce n'était pas la première fois qu'elle travaillait sur des textes évoquant des maîtres anciens. Mais là, elle était vraiment très, très libre dans la manière d'aborder le sujet. Certaines choses lui étaient évidentes, d'autres moins. Elle lui a fallu faire une centaine de dessins, donc beaucoup de recherches. Et elle m'a dit que ce qu'elle était le plus difficile pour elle, ça a été les harnachements. Parce que tout au long des siècles qui ont illustré l'évolution de notre équitation de tradition française, les harnachements ont évolué. Mais le plus fascinant pour elle fut de voir que cette école d'équitation s'est construite au fil du temps jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on expliquait tout à l'heure avec les mentalités. Et ça reste pour elle avant tout une philosophie de l'équitation. Et elle a repris les mots donc du général Lotte, des mots que toi et moi nous avons vus souvent dans les manèges, ne serait-ce qu'à Salmièche, en avant, calme et droit, qui fixe vraiment la doctrine de l'équitation française. Et ce qui est important, ce qu'elle soulignait, et ce que toi et moi, je sais, nous voulons souligner, que ce n'est pas une équitation qui est limitée à des professionnels. N'importe qui, n'importe quel cavalier, quel que soit son niveau, peut monter dans cet esprit-là. Car c'est un esprit qui est fait de naturel, elle a utilisé aussi le mot de moelleux, et d'impulsion. Et cela, tout le monde peut le faire. Que l'on sorte en randonnée, en balade, ou tout simplement qu'on travaille son cheval dans la carrière. Car l'équitation française, c'est une histoire de ressort et d'harmonie du couple homme et cheval.
De ressort et d'harmonie du couple homme et cheval, absolument. Et toujours avec ce côté de créer en permanence des compromis, en fait. Le cavalier et sa monture, ou la cavalière, sont dans un dialogue permanent et qui dépasse le fait d'être sur le cheval. C'est aussi un dialogue qui s'instaure quand le cheval est au pré pour se détendre. C'est aussi un dialogue qui s'instaure quand le cheval est dans son box. C'est vraiment quelque chose, Jean-Yves le dit souvent, il faut y être, encore y être, toujours y être. Et ça, c'est peut-être un des secrets. Jean-Yves est resté quand même un an à Saumur, donc oui. Il a dû entendre quelques bonnes paroles pendant l'année qu'il y a passé. Alors, nous arrivons au dicton de la semaine. qui est un peu en droite ligne de ce que Virginie a raconté, nous a appris, si l'on veut que le cheval nous écoute, il faut commencer par l'écouter. Nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site CFM Radio à la rubrique « Le messager du cheval ». Merci Virginie.
C'est avec plaisir, Michel.
Et merci à toutes et à tous, n'est-ce pas, de nous rester fidèles. Et bien sûr, un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.